RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mode d'emploi. Vous rêvez d'un nouveau projet professionnel ? Vous vous demandez s'il est possible de faire un virage à 180 degrés ? De porter vos rêves à maturation ? Nous allons voir avec notre invité Marc comment il a fait pour non pas tourner la page mais carrément changer de livre. Marc, vous êtes exploitant du domaine de Mascaron au pied du Ventoux. Dites-nous, que faisiez-vous l'année dernière ?
Bonjour, mais écoutez, jusqu'en janvier dernier, j'étais directeur commercial chez un éditeur de logiciels à Paris.
D'un point de vue managérial, vous gériez combien de personnes ?
Alors j'avais une équipe, alors ça fluctuait d'année en année, mais c'était une vingtaine de personnes dernièrement, et j'ai eu jusqu'à 60-70 personnes quand j'avais les consultants également dans mes équipes.
Alors un jour, vous réalisez que vous en avez assez de l'informatique.
Alors,
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors ce qui se passe surtout, c'est que... J'ai démarré il y a une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années, à l'époque où il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de e-commerce. Il y avait véritablement quasiment rien de ce que le grand public aujourd'hui connaît de l'informatique. Et j'ai fait des projets avec des clients. J'ai fait l'Euro l'an 2000, des projets d'informatisation et je me suis véritablement régalé. Et puis, l'informatique, c'est devenu une industrie comme les autres. Et à l'arrivée de ma 50e année, on va dire, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que le retour à la terre ? Est-ce que la mise en œuvre, finalement, de ce que je sais faire, c'est-à-dire le commerce, au profit d'un produit qui m'intéresse, c'est pas finalement ma vocation et je me verrais bien là-dedans. Donc, j'ai commencé à travailler dans cette voie.
Vous parlez de vocation, c'est laquelle ?
La vocation, c'est de commercialiser du vin et, et de le faire... Et de l'élever, de le choyer, de le proposer, de faire plaisir finalement et de susciter des vocations et des conversations.
Je reviens un tout petit peu en arrière. L'entreprise dans laquelle vous étiez, c'était une grosse boîte ?
C'était une entreprise de 500 personnes, mais précédemment, j'ai travaillé dans des entreprises de 150 000, 400 000 personnes.
D'accord. Alors du coup, ensuite, vous retournez à l'école ?
Alors effectivement, pour devenir un minimum compétent et surtout pour avoir un statut d'exploitant agricole, je me suis lancé dans un bac professionnel sur la vigne et le vin par correspondance avec des regroupements qui avaient lieu trois fois par an. Et puis un diplôme que j'ai passé en juin dernier, comme les petits jeunes de 17-18 ans. Donc c'était le côté un petit peu difficile parce que très scolaire. Et j'avais un peu oublié à 58 ans ce que c'était que l'école. Mais en tout cas, j'ai rencontré des gens passionnés parce que c'était que des gens qui, comme moi, changeaient vraiment de métier. Et donc, on a eu une communion pendant ces regroupements, pendant ces séances de regroupement où on a partagé, on a parlé de nos histoires respectives. Et ça a été super enrichissant, sans compter le stage que j'ai dû faire chez un vigneron où là, j'ai vraiment appris un métier.
Et avec vous, il y avait des petits jeunes ou il y avait... que des gens en reconversion comme vous ?
Alors clairement, j'étais le plus vieux, mais les plus jeunes avaient 25-27 ans, ils avaient déjà bac plus 4, bac plus 5, mais pas du tout dans le vin, ils voulaient ou reprendre le domaine familial, ou ils avaient hérité d'un hectare en Champagne, ou ils étaient, notamment je m'en souviens d'un qui était infirmier en Corse, et qui en avait marre du bloc opératoire et qui s'est dit « Tiens, je m'associerais bien avec mon voisin, je ferais bien du vin avec lui en Haute-Corse. » Et la seule façon de le faire, c'était d'avoir un diplôme. Sinon, le vigneron n'acceptait pas de partager son métier avec lui. Donc vraiment des profils très différents. Il y avait des vendeurs de voitures, il y avait des juristes, il y avait de tout. Commissaire de police.
Des jeunes de l'âge de vos enfants, vos propres enfants, ils vous disaient quoi, vos enfants ?
Ils étaient interloqués. Ils étaient interloqués, mais en même temps, ils s'interrogeaient sur mes motivations, sur pourquoi je faisais ça. Et quand je leur expliquais, comme je suis en train de le faire là, ils comprenaient très très bien. Et en fait, il n'y avait plus de barrière d'âge à la fin. Par contre, mes filles m'ont dit « t'as intérêt à avoir le bac ».
Le monde à l'envers.
Vous avez quitté Paris pour faire ce projet.
Absolument, il est difficile de faire du vin à Paris.
Oui, voilà, exactement. Non, mais ça veut dire que vous avez tout quitté pour vous installer ici, faire la formation et reprendre un domaine ici.
Alors la formation, je l'ai fait à distance. Donc, je n'ai fait que les regroupements et le stage. Donc, je faisais ça sur mes jours de vacances. Donc, ça fait 3 ans que j'ai pas pris réellement de vacances. Donc, là, j'en prends dans un mois. Et donc, j'ai effectivement vendu mon appartement, quitté mon emploi et j'ai trouvé le domaine dans lequel je suis il y a 3 ans maintenant, après plusieurs années de recherche.
Votre entourage proche vous dit quoi de ce projet ?
Alors, au début, c'était un peu sceptique. Notamment ma maman qui me disait « j'espère que ton vin sera bon ». Donc je lui expliquais que achetant une terre viticole depuis des décennies, et voire même plus, des siècles et des siècles, en s'entourant d'œnologues conseils compétents et en faisant des tout petits rendements, j'allais arriver forcément à faire des choses qualitatives. Et ce qui est le cas aujourd'hui, puisque ma première cuvée remonte à 2016. Et globalement, toutes les personnes qui peuvent goûter mon vin l'apprécient. Donc on va dire que je suis content de ce côté-là, quoi.
D'accord, alors on va voir comment vous êtes passé d'un côté à l'autre. Vous êtes à l'écoute de Mode d'emploi. Nous sommes avec Marc, exploitant du domaine du Mascaron. Alors, vous commencez à chercher dans le sud une propriété. Vous vouliez quoi ?
Alors moi, c'est ça qui me posait problème à l'époque. C'est que quand je m'adressais à des agents immobiliers spécialisés dans le vin, ils avaient tendance à me montrer des superbes vignes, super qualitatives. Mais alors un bâti des fois qui était catastrophique, c'était la grange en tôle ondulée dans le fin fond d'un champ, et je leur expliquais c'est pas ça que je veux. Moi ce que je veux c'est un beau bâti dans lequel je vais vraiment me plaire, et puis la vigne, elle est dans un territoire qui fait du vin depuis longtemps, j'arriverai forcément à faire à minima un vin de copain et au mieux un vin agréable à boire. Et effectivement ça a été la bonne surprise, parce que j'ai acheté finalement une vigne et un mas, mais sans bouteille, sans matériel, sans chais, sans rien du tout, et c'est tout ça que j'ai à créer. Donc j'avais pas d'historique, je savais même pas à quoi allait ressembler mon vin une fois vendangé.
Mais vous aviez en tête un beau bâtiment.
Ah oui. Oui, puis j'avais envie de vivre dans le sud, j'avais envie de soleil à Paris, il pleut pas plus qu'ici, mais il fait très 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 souvent gris, et ça j'en avais assez, je voulais de la lumière, je voulais de la couleur.
Alors, 10 ans à chercher, on ne se souffle pas un peu ?
Non, parce que je cherchais une à deux fois par an, c'est-à-dire que je préparais l'hiver à partir de sites internet, je téléphonais, je prenais des renseignements, je demandais des dossiers, des photos, des descriptifs, des bilans, des comptes de résultats quand c'était des sociétés, etc. Et puis, je venais visiter en mai et en juillet. Et d'ailleurs, c'était un de mes soucis, c'est qu'en mai et en juillet, un Parisien qui débarque en mai et en juillet, il passe pour un guignol. Donc quelque part, quand j'ai voulu accélérer cette recherche, parce que pas très heureux dans mon job, puis mes enfants étant grands, maintenant les 4 filles travaillent, dont 3 à l'étranger, donc je me sentais un peu libéré de cette contrainte, entre guillemets, matérielle. Je me suis dit, c'est le moment. Et là, j'ai accéléré, j'ai décidé de visiter en décembre et en janvier. Et là, j'étais pris au sérieux. Et j'ai commencé à regarder, alors j'ai ciblé, ça allait de Perpignan à Nice, en remontant jusqu'à Valence, je suis même allé à Bergerac, à Cahors, enfin je me suis perdu dans ces contrées. Et puis très vite, depuis en tout cas 4-5 ans, je m'étais recentré sur la Provence.
Combien de domaines avez-vous visité ?
J'ai dû en visiter une quarantaine à peu près.
Ah, quand même.
Ouais. Quarantaine, dont 17 les 2 dernières années avant d'acheter. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de domaines en vente.
Oui, il y a pas mal de domaines en vente parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent vendre et leur bâti et leur terre, finalement, trouvent moins acquéreurs que ceux qui vendent que leur terre. Parce que les terres peuvent être intéressantes pour un autre vigneron qui veut agrandir son territoire, son terrain. Et là, le bâti finalement posait problème dans la vente. Et celui qui vendait, comme c'était son bébé, même s'il ne s'est jamais intéressé au vin, il voulait vivre au milieu des vignes, mais sans s'occuper du vin, bah, finalement, il voulait vendre l'ensemble. Et vendre l'ensemble, ce n'est pas simple.
Vous n'êtes jamais découragé dans cette recherche ?
Non. Non, jamais. Non, jamais, parce que supporté par ma compagne, pas complètement découragé par mes enfants, ni par ma maman, même si elle a essayé. J'espère qu'elle n'écoute pas. Et puis non, bon, il y a forcément des hauts et des bas, mais vous savez, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand vous faites ça un peu en fin de vie professionnelle, vous avez déjà la maturité, puis financièrement les reins suffisamment solides et moins de charges. Et donc quelque part, c'est que du bonheur, c'est que du bonus.
Alors maintenant, l'avenir se dessine comment pour vous ?
Maintenant, je me retrouve à la tête d'une entreprise que je veux développer. Donc là, je voulais faire 3 000 bouteilles, j'en ai fait 8 000, puisque 2016 étant une bonne année, J'ai carrément fait 3 fois plus de bouteilles. J'en ai déjà vendu 3000. Donc, quelque part, je me dis que j'ai déjà vendu ce que je pensais faire. Donc, je suis content d'en garder pour l'année prochaine. Bah, maintenant, ça va être de passer à la vitesse supérieure sur tout ce qui est relais de croissance, les agents, les distributeurs, les importateurs.
Les salons,
donc, mais surtout les salons professionnels, parce que les salons particuliers, c'est sympathique, mais c'est pas rentable. Donc, je me suis inscrit à Vignisud au mois de février et je vais vraiment passer 4 mois à préparer ce salon. C'est-à-dire, je vais pas juste y aller avec un stand en disant « Coucou, c'est moi, le petit vigneron du Ventoux ». Je vais vraiment prendre la liste de tous les importateurs, distributeurs qui potentiellement peuvent y être et je vais leur écrire en anglais. Et d'ailleurs, c'est un problème en revenant sur les réseaux sociaux. C'est que quelque part, il y a énormément d'importateurs à l'étranger qui n'ont pas de site en version anglaise. Et ça, ça me pose problème pour prospecter.
La récolte cette année ?
Eh bien, la récolte cette année est très intéressante puisque j'ai un hybride qui me permet de faire du jus, donc de faire de la quantité là où, les autres ont eu des problèmes avec le gel. Donc, je suis très, très content de cette année.
D'accord. Passer de la ville à la campagne et même du coq à l'âne, de l'informatique à la culture de la vigne et l'élevage du vin, ça arrive. Même si parfois cela peut prendre le temps. Vous souhaitez réécouter cette émission, la faire partager, retrouvez-nous sur le site RCF Vaucluse, sur la page podcast de l'émission Mode d'emploi. Vous pouvez également nous écrire à modedemploi@rcf.fr. Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous terminons cette émission sur votre citation.
Alors, ce que j'ai dit à mes équipes depuis 20 ou 25 ans, quand on était face à une situation un peu complexe où il fallait remettre les choses en place, je disais, il faut remettre l'église au centre du village et je pense que cette citation a été appréciée de tout le monde.
À mercredi prochain, 19h17 sur RCF pour écouter d'un autre œil notre prochaine invitée.